Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka pour un nouveau rendez-vous de talk show. Cette semaine, notre invité est une personnalité emblématique du petit écran, c'est écrit sur le dossier de presse. En tout cas, notre invité, c'est Géopardy, c'est le juste prix, c'est succès fou, et notre invité, vous l'avez reconnu, c'est Philippe Rizzoli. Bonjour Philippe Rizzoli.
Bonjour Jean, je suis ravi de vous retrouver, on se connaît de longue date.
Oui, oui, on se connaît depuis très très longtemps. Alors, vous avez sorti un nouvel ouvrage à oui. l'archipel, Jamais trop tard, on parlera de ce titre à la fin de l'émission. Pour revenir, c'est votre la suite du livre précédent, Dites à mon fils que je l'aime, c'est la suite ou c'est un autre livre?
Non, c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est là chronologiquement, c'est la suite, puisque Dites bien à mon fils que je l'aime, qui est sorti il y a 3 ans, parler de mon enfance, de ma passion pour la télé, c'était aussi un hommage à la famille en règle générale. Mmh. Et puis ça s'arrêtait au moment où je concrétisais mon rêve, c'est-à-dire que je décrochais ma première place d'animateur de télévision, c'était sur la chaîne Canal+. Au moment où elle démarrait, je démarrais en même temps qu'elle, avec un jeu qui s'appelait Star Quiz. Et moi, je m'arrêtais là et je pensais m'arrêter définitivement là et passer à autre chose. Sauf que tous mes lecteurs ont écrit via les réseaux sociaux en disant « Ben oui, mais nous, on aimerait la suite. Uh-huh. » Mon éditeur, qui a reçu pas mal de demandes aussi, m'a dit « Ben oui, nous aussi, on aimerait la suite. » C'est-à-dire, en fait, ton parcours télé avec les hauts, avec les bas, avec ce qu'on connaît, la partie immergée de l'iceberg, mais ce qu'on ne connaît pas aussi. Donc je me suis mis à raconter ce parcours un petit peu comme un roman, même si tout ce que je raconte est absolument vrai, il n'y a rien inventé. Mmh. C'est un livre résolument positif, il n'y a aucune nostalgie, aucune amertume.
Vous le dites d'ailleurs dans le livre.
Voilà, exactement, hein, c'est vraiment, moi je retrace des faits que parfois j'analyse, évidemment, hein, c'est pas froid non plus. Uh-huh. C'est plein de, j'espère, de bons sentiments en tous les cas.
On va revenir, si vous le voulez bien, excusez-moi, oui. On va avancer dans le livre pour revoir votre parcours et vous me direz à chaque fois votre commentaire. Vous commencez, vous dites Star Quiz, et puis après, vous remplacez Philippe Gidas dans une émission qui s'appelait Direct. C'était plus...
Je lui succède, en tout cas.
Voilà, ok. Vous lui succédez, lui parti ouais. sur une par ailleurs. Voilà. Ce parcours-là de Direct, c'est un peu plus journalistique animateur, non?
Oui, c'est totalement journalistique, avec un zeste de divertissement. C'est-à-dire que ça correspond exactement à ce que j'aime faire, c'est-à-dire humour, culture, tout ça. Mmh. Tout ça un petit peu mélangé. Je trouve qu'à la... Vous savez, ce livre, c'est aussi un regard sur la télévision des années 80, 90, 2000, mais c'est aussi un regard sur la télévision actuelle.
Hein. Ouais, on va en parler, c'est prévu dans mes questions.
Voilà, mais c'est pas du tout un livre du passé, c'est ça que,
alors, c'est ça que je veux dire.
Juste un mot sur cette émission.
Allez-y, oui.
C'est une des émissions qui me tient le plus à cœur, parce que c'est la première fois de ma vie où je rencontrais des personnalités... absolument énorme dans le monde du théâtre, du cinéma, de la musique, les plus grands. Jeanne Moreau était ma marraine d'édition. Et puis j'enchaînais avec les Gainsbourg, avec les Pécaud, avec les Raymond Devos, avec tous qui étaient les plus grandes stars de ces années-là, les Jean-Jacques Goldman.
Alors en regardant votre parcours, j'ai marqué que vous recevez près ou pas de politique. C'est une volonté de votre part.
Il y en a eu quelques-uns. Effectivement, cette année-là, il n'y a pas eu effectivement énormément de politique, même si c'était une année, si mes souvenirs sont bons, une année présidentielle. Hein. Mmh. 88, oui, c'était la réélection de François Mitterrand.
C'est quelque chose que vous aimez moins?
Ah, pas du tout. Je suis passionné par la politique. Je suis... Alors, entendons-nous, hein, si j'ai le choix actuellement, je préfère être avec des gens que j'appelle les gens de culture, c'est-à-dire la musique, le cinéma, le théâtre, que des politiques qui, en ce moment, ont tendance à nous mener quand même un peu en bateau, à nous balancer des discours, quel que soit le bord politique.
D'accord. Hein, Alors, dans votre livre, Jamais trop tard, vous racontez donc votre histoire. Et alors, il y a une bascule dans votre carrière, c'est celle d'arriver sur TF1. Alors, moi, je me rappelle assez bien de cette époque-là. Vous allez sur TF1, on vous annonce dans un nouveau jeu, une nouvelle formule, et puis on vous retrouve dans une émission médicale. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, on disait que c'était un problème de mettre à jour la version française du jeu Jeopardy. C'est quoi la vérité?
Alors, la vérité, c'est que quand je quitte Canal+, la directrice des variétés divertissement, directrice des programmes de l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs
Dominique Ancien, ouais.
Voulait absolument travailler avec moi, et ça, ce qui m'a beaucoup touché, parce que ça a été une grande dame, et ça l'est toujours, de la télévision. Elle voulait travailler avec moi, mais c'est vrai que peut-être qu'en ligne de mire, il y avait le jeu Jeopardy, mais il n'était pas prêt. Vous savez, il y a des histoires de droit, histoires de... C'est un peu parfois un peu long à mettre en place, c'est un jeu américain, etc. Il n'y avait pas eu de test qui avait été effectué. Simplement, c'était Star Quiz à l'envers et Star Quiz avait bien marché. Donc, à la limite, autant que ce soit moi qui l'anime. Mais il y avait aussi au quotidien un petit talk show. Alors, vous dites médical au départ, c'est pas vraiment médical. C'était un talk show de remise en forme, si vous voulez. Qui comprenait les petits bobos du quotidien.
C'était présenté en compagnie de Martine Alain Regnault, journaliste qui est parti il y a quelques années, qui était évidemment avec vous. Mais je voudrais qu'on avance un peu, on va pas parler de l'émission que vous avez fait sur les animaux et les enfants. Et vous parlez également de votre voyage aux États-Unis, justement pour voir comment était la mécanique de Jeopardy. Et dans votre livre, on voit bien que vous adorez les voyages, que ce soit aux États-Unis, que ce soit...
Alors, c'est vraiment... Ma vie, elle est basée sur les voyages.
D'accord.
C'est-à-dire les rencontres avec les gens, les cultures différentes, tous les pays, toutes les cultures me passionnent absolument. Que ce soit à l'Est, à l'Ouest... Alors, je dis pas que j'ai fait le tour du monde parce qu'il me manque quand même des régions importantes.
Ouais.
Je suis jamais allé en Australie, par exemple. Je suis jamais allé dans certains pays d'Amérique du Sud et notamment l'Argentine. Mais j'en ai fait d'autres. Hein, le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Guyane, etc. La Guyane, c'est français, mais c'est aussi sur le continent américain du Sud. Donc, j'aime ça. J'aime les voyages et ça a été l'occasion de découvrir Los Angeles et sa région. C'était la première fois que j'allais à Los Angeles, mais j'y allais dans un but très précis, qui était de rencontrer Alex Trebek, qui est un des plus grands, parce que lui aussi, malheureusement, est disparu il y a 2-3 ans, un des plus grands animateurs de jeux, notamment avec Jeopardy.
D'accord.
Il animait le Motus américain aussi.
Ah, d'accord.
Et puis, rencontrer Bob Barker, sans savoir qu'un jour, j'aurais les clés du juste prix, qui s'appelle Price is Right, et je trouvais ça intéressant de voir tous ces présentateurs américains, de voir leurs techniques, de les examiner, de voir les réactions du public. Donc on a passé une semaine vraiment à l'occasion d'enregistrement plus tard.
Alors vous avez dit « on », ça veut dire que vous êtes allé avec votre future ancienne épouse? Votre future épouse en tout cas?
Non, pas du tout. Là c'était professionnel.
Ah, c'était professionnel, d'accord.
J'étais avec Béatrice Esposito, alors elle aussi disparue malheureusement, bien trop prématurément, qui était le bras droit de Dominique Ancien à l'époque, elle était la directrice des jeux. J'étais avec Pascal Duchesne, qui est un réalisateur
bien connu,
et qui allait réaliser les premiers numéros de Jeopardy, et j'étais avec Monique Ronceret, qui faisait partie de la société Lindas, qui deviendra plus tard EC Télévision.
D'accord, producteur de l'émission.
Non, c'était vraiment du boulot quand même. Là, la façon dont je le raconte, c'était de l'amusement, mais pas du tout. Hein. C'était un vrai boulot, à la fois d'observation, de rencontre, de discussion. J'ai pris je ne sais combien de notes, donc je me suis servi par la suite, à tel point que lorsqu'Alex Trebek verra les différentes versions européennes de Jeopardy, dira, et j'en suis fier, il le dira dans un livre, la plus belle des versions et l'animateur qui l'affectionne le plus, c'était ma modeste personne. Et ça m'a énormément touché, évidemment, parce qu'encore une fois, c'était vraiment un très grand de l'animation.
Alors, la question sous-jacente que j'avais tout à l'heure, c'est que c'est l'une des rares fois où vous parlez de votre femme et de vos enfants, alors que vous avez l'habitude de pas en parler ou très peu.
Non, j'en parle jamais, oui.
Pourquoi alors avoir décidé de dévoiler un tout petit peu votre vie privée, vraiment en quelques
lignes? C'est vraiment un tout petit geste.
Oui, hein, ouais, évidemment.
Mais... c'est quelques lignes.
Oui.
Et pourquoi? C'est parce que il se trouve que, puisque vous évoquez Jeopardy, Jeopardy commence à l'antenne le lundi 5 juin 1989, et ce que je dis dans le livre, et c'est comme ça que je le raccorde à ma vie privée, ce que je dis, c'est que ça a été sûrement une des semaines les plus importantes, sinon la plus importante de ma vie.
De votre vie, oui.
Alors, d'abord, parce qu'il y a ce clin d'œil à Jeopardy le lundi 5 juin, et la semaine se termine le samedi 10 juin, donc, et le samedi 10 juin, je deviens papa pour la première fois de ma vie, mais non pas d'un, mais de deux enfants, puisque ma femme accouche des jumeaux, une fille, Julia, et un fils, Pierre, qui d'ailleurs, là, sont avec moi aujourd'hui.
D'accord.
Donc c'est un clin d'œil que j'ai voulu faire, mais vous avez noté que ça ne va pas plus loin que ça. Hein.
Oui. Alors, on va avancer dans votre carrière. Jeopardy s'arrête, on ne sait pas très bien pourquoi. On parle d'audience, on parle de...
On ne parle pas d'audience.
C'est un peu quand même.
Mais qui parle de ça?
Vous le dites.
Ah non, je me pose la question.
Voilà.
Je dis, est-ce que ça peut avoir un rapport avec les audiences? Mais j'apporte aussi la réponse, c'est non.
D'accord.
Ça peut pas être une question d'audience.
Donc j'ai bien lu.
Voilà, parce que l'audience, elle était là.
Alors, vous arrêtez Jeopardy, on va avancer, et vous arrivez à d'autres émissions. On va juste passer sur l'émission du Juste Prix. Il y a une très belle histoire que vous racontez, en tout cas, c'est que quand le directeur de programme vous convoque pour animer le Juste Prix, vous lui dites « Non, c'est l'émission de Patrick Roy, moi, c'est mon ami. »
Moi, j'écoute pas, ouais.
C'est rare comme... réflexion de la télévision, non?
C'est peut-être rare, mais c'est ma personnalité. Moi, je suis comme ça. Il n'était pas question pour moi de prendre la place de quelqu'un avec qui j'avais non seulement des rapports professionnels, puisqu'ensemble, on avait animé un prime time qui s'appelait Succès.
Ah oui, je voulais en revenir, mais c'est pas grave.
Qui est sûrement le prime time, le seul prime time de l'histoire de la télé qui a été présenté par un trio de présentateurs.
Donc, il y avait vous, Christian Morin et Patrick Roy.
Et Patrick Roy, les gens s'en souviennent, hein, souvent on m'en parle. Il y avait un aspect privé, parce que je dévoile quelques sorties que j'ai eu l'occasion de faire avec Patrick, et puis notre connivence, notre... Non, on avait vraiment une estime l'un pour l'autre, c'est quelqu'un de très populaire que j'estimais beaucoup, qui faisait son job. Alors on a présenté le Juste Prix de façon très différente l'un d'autre, mais chacun... avait son charme, avait son coup de patte. C'est comme les grands cuisiniers, si vous voulez. C'est la même chose. On avait à la base la même recette, mais on avait une façon un petit peu différente de faire monter les œufs en neige, les blancs en neige, si je veux dire.
Une question qu'on m'a demandé de vous poser,
dites-moi.
C'est le micro. Vous aviez la tendance de faire une sorte de jogging, enfin de lancer le micro, je sais pas comment on dit. C'est devenu d'où?
C'est venu, d'abord, j'ai commencé à le faire sur Star Quiz, mais c'était un micro à fil.
Ouais.
Donc j'ai commencé
c'est plus compliqué,
un petit peu,
ouais.
Parce que j'ai tout de suite compris que pour se démarquer des autres dans ce métier, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, il y a quand même pas mal de personnalités différentes, il fallait avoir deux, trois petits trucs un peu reconnaissables. Il y en a, c'est la façon de s'habiller, il y en a, c'est la même phrase qu'ils vont répéter tout le temps. Alors moi, au tout début, par exemple, quand je terminais les émissions et notamment Jeopardy, je disais au revoir les amours, à demain. Sauf qu'on m'a mis une émission en face de moi qui s'est appelée Les Amours.
Ouais.
Donc je me suis, je peux plus dire ça. Donc il faut que je trouve autre chose. Et puis je me suis souvenu de ce que je faisais sur Star Quiz en faisant tourner le micro à fil. Là, il n'y avait plus de fil, puisque c'était les micros à chef. Et donc je l'ai fait tourner une fois. Et ça a amusé quelqu'un, ma productrice, qui a dit « c'est marrant ce truc, tu devrais le refaire ». Et à partir de là, je me suis mis à le faire. Alors, entendons-nous, hein, je ne le faisais que sur les émissions de divertissement.
D'accord.
Quand je faisais des émissions plus sérieuses, je ne faisais pas tourner mon micro, mais c'est quelque chose qui a vraiment marqué, quoi, parce que tout le monde m'en parle. Vous voyez, j'ai participé à l'émission Les Enfants de la télé sur France 2, là, très récemment. Il y a eu un moment où on m'a dit, oh, tu peux faire tourner ton micro. Faustine Bollard m'a demandé ça. Je le fais toujours avec plaisir et toujours avec recul et un clin d'œil d'humour. Hein, voilà. Alors, et c'est vrai que c'est ma signature.
On va revenir un peu à votre carrière. Il y a un moment où vous êtes au top. Vous présentez l'émission Succès Fou, vous présentez Le Juste Prix, vous êtes le matin sur RTL, vous faites plein de...
Il y a surtout une autre très très grosse émission qui s'appelle Millionnaire.
Mais je voulais justement y revenir tout de suite après, pour y D'accord. parler un peu plus longuement. À ce moment-là, on est au toit du monde.
On est
sur le toit du monde, on se dit que rien ne peut arriver.
Le toit du monde. Moi, j'ai jamais eu la grosse tête, j'ai jamais été comme ça, je suis toujours resté moi-même, parce que la plupart de mes vrais amis, mes bons copains, ma femme, mes enfants, c'est des gens qui sont pas du métier, si vous voulez. Donc, si jamais j'ai un petit écart, ils me remettent à ma place.
D'accord.
Mais franchement, j'ai jamais eu... Et puis, j'ai jamais eu des... Vous savez, je suis issu d'un milieu, ce qu'on appelle les Français moyens, un milieu, ce que j'avais raconté dans le premier livre, un milieu quand même globalement modeste. Ouais. Donc, j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de goûter au caviar, de goûter au homard, de goûter et au champagne. Mais rien ne vaut un bon plat de pâtes, hein, avec la sauce tomate, ça je vous le dis. Franchement, on en revient
ça. Ça, c'est vos origines italiennes.
Voilà, oui. mais j'aurais pu vous dire un très bon poulet rôti avec des petits pois ou des pommes de terre.
D'accord. Hein. Alors, on va revenir à votre jeu. Alors là, franchement, de toutes vos émissions, je crois que c'est celle que j'ai beaucoup appréciée. Peut-être d'autres encore, mais vraiment, cette émission, c'est Le Millionnaire. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire.
Parce que c'était très à part. C'était à la fois un jeu, puisqu'il fallait actionner une roue pour déterminer le montant de ses gains, sachant qu'on n'était plus un candidat, mais déjà un gagnant, puisque en arrivant sur le plateau,
vous avez déjà gagné.
Quoi qu'il arrive, on avait 100 000 francs. C'est pas rien. C'est comme si la jeu, quoi qu'il arrive, vous avez 100 000 euros, vous voyez. Donc, c'est pas rien. Mais après, il y avait cette roue à tourner pour cette roue qui multipliait le montant de vos gains, éventuellement, et jusqu'à un million d'euros.
Alors, expliquez-moi, quand on vous propose l'émission, on vous dit, voilà, vous allez recevoir des invités, vous allez tourner la roue, c'est assez simple comme concept, mais vous l'avez habillé, vous l'avez construit,
voilà.
Vous l'avez...
C'est-à-dire que moi, si c'est simplement recevoir quelqu'un qui va tourner une roue, remporter 500 000, 600 000... Et puis terminer, très honnêtement, d'une part, moi, en tant qu'animateur, ça ne m'intéresse pas. Et d'autre part, je pense que visuellement, les gens, les téléspectateurs, se seraient lassés très très vite. Parce que 1 million, ça vous impressionne une fois, ça vous impressionne deux fois. Et puis quand vous l'avez vu 10 fois, y a une espèce d'accoutumance. Hein, c'est comme un drogué, si vous voulez. Il y a une vraie accoutumance. Donc ça n'est pas de plus personne. Donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse... Je vous disais tout à l'heure, quand on a commencé cette interview, je parlais du voyage.
Oui.
Et que je vous disais, j'aime rencontrer des personnalités très différentes au fin fond du Vietnam, au fin fond d'un pays africain. J'adore ça. Et bien là, c'est ça qui m'intéressait. C'était de rencontrer des personnalités qui sortaient, alors je le mets entre guillemets, de nulle part. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas destinés du tout à se produire sur un plateau de télévision, c'est simplement des gens qui un jour soit avaient acheté, soit à qui on avait offert un ticket de grattage et qui avaient eu la chance ce jour-là de découvrir 3 écrans de télé. Mmh. Alors ils participaient à cette émission et devaient, selon le concept, devenir riches et célèbres, rich and famous.
D'accord.
Donc moi ce qui m'intéressait c'était de mettre un coup de projecteur sur leur personnalité avant tout. Alors il y a ceux qui jouaient le jeu et qui avait parfois un petit talent, ça aurait pu être incroyable talent, si vous voulez, vous voyez. Il y a ceux qui avaient moins de talent, on ne peut pas, voilà. Mais c'est devenu vraiment, c'est passé à la postérité, et vous allez sur les réseaux sociaux, trouver des dizaines et des dizaines d'extraits, ce qui fait que Des fois, on me dit, ah bah, le jeune, mais il ne te connaît pas. T'es plus... Mais si, il me connaît parce que, bah, parce qu'il va sur Internet et qu'il regarde les extraits qui restent toujours très souvent très, très drôles.
Alors, vous connaissez la télé mieux que moi et la radio. J'ai un timing à respecter. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite sur votre
D'accord,
histoire. On vous a posé 300 000 fois la question. C'est votre... le fait d'être remercié par TF1, c'est un coup de fil du patron Étienne Mouzotte qui vous dit oui. « J'ai rien pour vous ». Et là, vous le racontez dans votre livre, ça a été un vrai coup de poignard pour vous.
Oui,
qu'est-ce qui vous a dérangé? C'est qu'on vous mette dehors ou plutôt la façon dont ça a été fait?
Bah, c'est un ensemble, si vous voulez. Ça marchait bien pour moi. Le public qui suivait, adhérait. C'est surtout que quelques semaines avant... On réfléchissait à des projets ensemble. Le juste prix devait s'arrêter parce que c'était l'avènement de l'euro et que comme le jeu était axé sur les prix...
Il fallait trouver un moyen de...
Donc moi, je me dirigeais vers autre chose, soit une émission caritative le dimanche après-midi, soit un prime time de variété, enfin bref. Bon, c'est l'époque où arrive la Starac.
Vous avez failli présenter la Starac ou c'est depuis le début, c'était Nikos?
Non, c'était Nikos depuis le début.
D'accord.
D'ailleurs, il m'en a parlé, il m'a même demandé ce que j'en pensais. C'est pour vous dire, le cynisme. En quelque sorte. Et la phrase exacte, c'est dans l'immédiat, je n'ai pas de projet pour toi. Donc, évidemment, vous vous dites, l'immédiat, c'est quoi? C'est un mois, c'est deux mois, c'est six mois. Mais à aucun moment, on m'a dit, t'es viré ou t'es dehors. Ou,
vous l'avez compris assez vite.
Ah, je l'ai compris assez vite parce que j'avais la rentrée est arrivée, que j'avais pas d'émission et que je continuais à être payé. Donc à un moment où vous avez le directeur des ressources humaines qui vous appelle et qui vous dit donc il y a un problème, vous faites rien, vous êtes payé. Donc on va mettre fin au contrat, quoi.
Alors, voilà. Je peux pas parler de tout le livre, de votre arrivée sur Julie. Avec l'émission L'École des fans, sur la suite de votre carrière.
J'ai adoré faire cette émission.
D'accord. Notamment sur votre arrivée sur Julie et vos différentes rencontres avec Jean-Luc Delarue. En fait, on vous a fait souvent miroiter votre retour à la télévision contre une participation à la célébrité, où on vous a rencontré des milliers de fois sans concrétiser. C'est des choses qui sont inhérentes à la vie d'un animateur de télé?
Ouais, sûrement. Puis si vous voulez, je vais vous dire, dans ma carrière, j'ai raté un coche.
Ah.
C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, je ne peux pas remettre ça. Mais disons que j'avais un conseil fiscal qui me disait toujours, surtout, reste salarié de l'entreprise TF1, ne bouge pas, ne bouge pas. Or, moi, je crois vraiment, que j'aurais dû monter une société pour avoir une monnaie d'échange. Sinon, vous êtes obligé d'accepter un peu les propositions qu'on vous fait, en espérant qu'il y aura une suite. Mais souvent, on se joue de vous. Vous savez, là, en ce moment, pour la sortie de ce livre, j'ai fait pas mal d'émissions de télé.
Oui.
Et à chaque fois, je reçois des dizaines et des dizaines de messages. Alors, à la fois de téléspectateurs, mais aussi de professionnels qui me disent « Ce serait bien que tu reviennes à la télé, ce serait formidable, tout le monde t'attend, tout le monde te suit, tout le monde te fait ça. » Mais en fait, il n'y a pas de truc sérieux, si vous voulez.
Oui, alors, entre-temps, vous êtes devenu comédien, avec l'aide de la femme de Jean-Pierre Pernaut. Question tout à fait simple, qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, dans la télévision d'aujourd'hui, quand vous regardez d'ailleurs souvent la télé?
Ah, bien sûr, je suis le même téléspectateur que j'étais quand j'avais une dizaine d'années.
D'accord.
Je crois que jusqu'au bout, j'adorerais la télé.
Il y a une émission dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français.
Oh, mais il y en a pas mal, je peux pas vous en
dire. Une que vous auriez aimé présenter, vraiment?
Non, mais il y en a plusieurs. C'est vrai que j'aurais aimé faire un talk show, genre à 18h30, vous voyez. Ça m'aurait plu avec une bande un peu, si vous voulez, refaire un peu ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire l'émission directe. Ça m'aurait bien plu.
Mais il y a une émission, par exemple, que vous regardez souvent, que vous ratez jamais.
Je regarde les talk-shows du soir, notamment.
D'accord.
Je navigue entre les trois avec toujours, compte tenu de mon passé, un petit feeling particulier pour Cyril Hanouna.
D'accord. On le raconte dans le livre également. votre rencontre.
Je le raconte, mais je regarde aussi C'est à vous, je regarde aussi de temps en temps Quotidien, je regarde. Mais ça c'est des parce que c'est là où ça se passe, si vous voulez. Moi, j'aime bien être au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit dans le monde de la culture, du sport, de la politique, etc., etc. Mais j'aurais pu présenter un grand divertissement, ça m'aurait beaucoup amusé, un Danse avec les stars.
Ah, d'accord.
Aurait pu m'amuser aussi, vous voyez. Mais alors moi, on me propose souvent des jeux. Alors j'aime bien les jeux de réflexion, j'aime bien Jeopardy, j'adorais.
D'accord.
Qui veut gagner des millions, j'adore. D'accord. Ce jeu, par exemple, vous voyez.
Alors, excusez-moi, mais le temps nous presse. Donc, vous êtes sur les planches en ce moment, partout en France, pour des pièces de théâtre. La question que vous posiez tout à l'heure, vous revenez quand à la télévision ?
Je ne sais pas si j'y reviendrai un jour. Ce n'est pas totalement mon problème. Tout dépend. Si quelqu'un m'appelle et me propose un truc, je l'examinerai. Voilà ce que je réponds. Je n'irai plus à la télé.
D'accord.
Et je dis pas non plus, j'irai obligatoirement.
Il n'y a pas de date, il n'y a rien de prévu.
Ce qui est certain, je vais vous dire ce que j'aimerais faire vraiment là, c'est jouer dans une série. Ça m'amuserait énormément.
D'accord.
C'est un truc que je n'ai jamais fait en télé. Le reste, j'ai fait du talk show, j'ai fait du jeu, j'ai fait du divertissement.
La chanson aussi.
J'adore la chanson, évidemment.
Vous avez fait un album de vos chansons.
Le deuxième est moins connu, mais j'en ai fait deux.
Ah, voilà.
Donc voilà, mais voyez, par exemple, une série, j'ai jamais tourné. Je prendrais bien un petit rôle dans une série. Ça m'amuserait beaucoup.
Je vais revenir sur votre titre du livre, édition Archipel, Philippe Risoli, Jamais trop tard. Pourquoi Jamais trop tard, pourquoi ?
Jamais trop tard, si vous lisez la toute première page, c'est « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être ».
C'est une jolie phrase.
C'est une jolie phrase, et ça veut dire qu'en fait, il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, quel que soit tout, finalement. La vie, malheureusement, est parfois dure, mais elle réserve parfois aussi des bonnes surprises. Donc il faut absolument y croire jusqu'au bout, mais jusqu'au sans être naïf, hein, sans être naïf et sans sans prendre les vessies pour des longs termes, comme on disait avant.
Voilà.
Mais il faut rester positif tout le temps, et croire en sa destinée, en son destin. Moi, j'ai toujours opéré comme ça et ça s'est pas trop mal passé jusqu'à présent.
Philippe Risoli, Jamais trop tard, Mes années télé et les autres aux éditions L'Archipel pour passer un bon moment et revenir dans certaines histoires que tout le monde a vécues au moins une fois en regardant vos émissions de télévision ou en écoutant vos chansons. Merci beaucoup Philippe Risoli, je vous remercie d'avoir accepté.
J'étais ravi de passer ce moment avec vous, cher Jean.
Merci, nous aussi, c'était très, très agréable. On aura peut-être l'occasion de refaire une interview pour votre retour à la télé.
Eh bien, qui sait, on croise les doigts, on touche, je ne sais pas quoi, tiens, du bois, j'ai du bois.
D'accord. Merci beaucoup, Philippe Risoli. Excellente journée et bon courage. Au revoir.
Vous également, Jean, à très bientôt.
À très bientôt.
Aux auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup.
Au revoir.